Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL. Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec. Thomas Hugues.
Il grimpe, vous l'entendez, il rampe, il sautille, il vole. Les insectes et autres petits animaux font partie de notre décor et pourtant on ne sait pas grand-chose d'eux. Bonsoir Marc Giraud.
Bonsoir.
Vous êtes naturaliste et écrivain spécialisé en zoologie. On vous avait déjà accueilli dans la curiosité, vous nous aviez emmené dans un safari endiablé, dans la bouse. On s'en souvient, les auditeurs s'en souviennent. Alors vous avez toujours le chic de nous intéresser, pour nous intéresser à l'infiniment petit puis à l'infiniment intéressant aussi évidemment. Et ce soir, vous avez décidé de nous faire découvrir les drôles de mœurs des petits animaux qu'on trouve dans nos villes et dans nos campagnes. Alors, bon, il y en a beaucoup. On va commencer absolument arbitrairement par la mouche.
Et pourquoi pas ?
Pourquoi la mouche ?
C'est bien de regarder voler les mouches.
C'est vrai. Et c'est marrant de regarder marcher aussi. Pourquoi elle marche au plafond ?
Et oui, et ça, on ne sait pas le faire. Hein, parce que souvent, c'est les gros animaux qui intéressent. C'est toujours le dauphin, etc., qui sont passionnants. Hein. Mais la mouche, on en a plein autour de nous et on ne sait même pas comment ça vit. Une mouche, par exemple, ça goûte avec les pattes. Pour draguer une mouche, ça vole au soleil, comme ça, pour faire briller ses ailes. Les mâles, ils draguent à vue. Donc, ils ont des yeux tellement énormes que ça leur fait comme un casque intégral autour de la tête. Si vous regardez bien les mouches, si les yeux sont séparés, c'est une fille. Si c'est vraiment des gros yeux bien rassemblés, c'est un gars. Voilà.
Et donc, avec ses yeux, les gars, qu'est-ce qu'ils font ?
Eh ben, ils voient mieux et ils draguent à vue.
Draguer à vue ?
Eh ben, c'est-à-dire qu'ils poursuivent les femelles.
C'est comme un homme, ça.
Une femme, donc c'est quoi draguer à vue ?
Ben, vous faites draguer par les gens qui voient. Voilà.
Je me suis jamais fait draguer par une mouche. Bon, elle était pas très bonne, celle-là.
C'est pas grave.
Allez, on va de surprise en surprise chez les insectes. Les grillons aussi sont très originaux. Ils n'entendent pas par les oreilles.
Alors la mouche, elle goûte avec les pattes, et le grillon et les sauterelles, ils entendent avec les jambes, avec les pattes. Alors c'est pas des oreilles qu'ils ont sur les pattes, hein, c'est avec des pavillons comme nous, c'est juste une petite fente, c'est un tympan, et effectivement ils entendent devant. Mais le monde des animaux, c'est un monde incroyable, c'est presque des extraterrestres, on se rend pas compte. Une chauve-souris, ça voit avec les oreilles, puisque c'est quasiment aveugle, donc ça a une espèce d'image mentale avec des ultrasons, ça se fait une espèce de scan de l'environnement. Le chien, nous, on le reconnaît à la vue, mais lui, il nous reconnaît au flair. Donc, vraiment, chaque animal est dans un monde différent. On est tous sur la même planète, au même moment, mais pas du tout dans le même monde. Donc, c'est bien de le savoir, parce que quand on va chercher des animaux dans la nature, il faut savoir que le sens du vent, par exemple, si vous voulez approcher un seul chevreuil, lui, il vous sentira à 300 mètres. Donc, c'est même pas la peine si le vent va pas dans le bon sens. Donc, c'est bien de savoir tout ça. Et aussi, pour communiquer avec ses animaux familiers, savoir comment se faire bien voir, entre guillemets, son chat ou son chien, qui est pas de quiproquo entre vous, des gestes mal placés, par exemple regarder dans les yeux. Tout le monde sait que c'est un défi pour les gorilles, mais aussi pour la plupart des animaux.
Donc les chats, il ne faut pas les regarder dans les yeux.
Si vous regardez deux chiens qui se rapprochent, bon, vous savez très bien où ils se reniflent. Hein, ça, c'est ils se présentent leur carte de visite olfactive, donc ils se reniflent à l'arrière. Hein, je ne vais pas faire de
dessin. Didier Alain Chabat, on ne renifle pas le cul des filles.
Mais comme ça, on sait à qui on a affaire. Si c'est un jeune, un vieux, un gars, une fille, s'il est en chaleur, etc. Si c'est un dominant, dominé, on sait tout. C'est vraiment la carte de visite des chiens. Donc ils se reniflent, et si vous les regardez bien, ils se regardent de travers. Mais ça, c'est de la politesse pour eux. C'est parce qu'ils se regardent pas en face. Ça, c'est un défi de regarder en face.
Donc il faut regarder notre chien ou notre chat de travers comme
et,
ça.
Et votre chat, si vous voulez, si vous regardez, s'il est content, vous plissez des yeux, vous regardez à côté. Vous le regardez pas fixement comme ça. Ça peut être mal interprété. Voilà.
Dans la série des animaux qui font leur cinéma, si j'ose dire, ou en tout cas les originaux, il y a les crapauds. Ils avalent avec leurs yeux.
Oui, c'est curieux ça aussi. Hein.
Ah bah oui.
Si vous regardez un crapaud ou une grenouille qui avale, ploum, ça enfonce les yeux. Parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment de palais, et ce sont les globes oculaires qui poussent la nourriture vers l'estomac.
Ah.
Donc, si vous les regardez, bah oui, mais pour eux, ça les dérange pas.
Ça nous, gratte. On aurait du mal.
D'un seul coup, ça gratte.
Tiens, parlons des papillons maintenant. Quand on les observe dans la nature, on a l'impression qu'ils ont comme des yeux dessinés sur les ailes. C'est une idée qu'on se fait, nous, parce qu'on projette quelque chose.
C'est fait exprès. Alors, exprès, c'est pas eux, ils le savent pas. C'est l'évolution qui a fait ça. Ils ont par exemple, le pan du jour, il est connu pour ça. Ils ont des faux yeux. Et quand ils ouvrent les ailes brusquement, ça fait comme un regard et ça fait très peur aux prédateurs. Et ça leur sauve la peau d'être comme ça. Et ils ont un instinct parce que ils savent pas forcément. Mais quand ils ouvrent les ailes, ça fait peur aux prédateurs. Donc ça leur sauve la vie.
Quand vous dites que c'est l'évolution, ça veut dire que les papillons qui ne l'ont pas
n'ont pas été sélectionnés.
Voilà, on voilà. Disparu, on n'a pas
ouais,
été
pour faire ça très schématique.
Oui,
voilà,
pour,
c'est
pour,
ça.
Pour simplifier, tout ce que vous nous dites là, vous êtes un scientifique,
un bestiologue.
Ouais, c'est le terme que vous aimez bien. Mais ça veut dire que vous allez sur le terrain?
Ah, je suis, alors je revendique d'être sur le terrain. Ouais, oui, je suis un naturaliste de terrain parce que sur le terrain, on découvre des choses et je conseille à tout le monde d'aller voir dehors parce que c'est pas pareil que dans un livre, dans un documentaire, etc. Quand vous êtes devant une mésange, que vous la voyez faire sa part nuptiale, etc. Pour les enfants, pour la famille, tout ça, ce sont des documentaires en direct. C'est passionnant et j'insiste beaucoup sur le fait que l'extraordinaire est dans l'ordinaire. C'est pas la peine d'aller loin. À Paris, on voit des hirondelles, des martinets, des tas de choses. C'est passionnant.
Et est-ce que vous livrez à des expériences, c'est-à-dire pour les, on parlait des papillons, pour comprendre comment ils mangent? Est-ce que vous leur présentez de la nourriture, par exemple?
Alors non, je fais pas d'expérience dans ce sens-là parce que ça c'est beaucoup fait dans les labos et je préfère observer le comportement naturel.
Et alors comment ils mangent justement les papillons?
Les papillons, ah bah ouais. Avec leur trompe, ça il y a qu'à se pencher, hein. Ils déroulent une espèce de trompe gigantesque. On dirait un rouleau de réglisse, vous voyez les rouleaux
oui.
De voilà.
Oui.
Une langue de belle-mère.
Et hop, ça se déroule et ils vont chercher loin dans les corolles des fleurs. Et ce sont les seuls à pouvoir aller chercher le nectar dans certaines fleurs. Donc il y a une symbiose, on appelle ça une entraide entre certaines fleurs et certains papillons. Seuls certains papillons peuvent butiner certaines fleurs. Donc l'un ne va pas sans l'autre.
La nature est bien faite.
Voilà.
Les escargots. Eux compilent un peu toutes les bizarreries, mais en plus ils sont hermaphrodites, c'est-à-dire ouais. Qu'ils sont mâles et femelles.
C'est monsieur dame.
C'est un monsieur
ouais,
dame.
Ouais, c'est ça. Et bon, ils s'accouplent pendant 12 heures, hein, faut savoir. Ils sont sadomaso. Donc tout ça, ça se passe dans vos jardins. Il faut quand même ouvrir les yeux, c'est passionnant. Hein.
Ou fermer les yeux et les oreilles, ça dépend.
Non, c'est passionnant.
Si
donc oui, ils sont sadomaso parce que pendant qu'ils s'accouplent, donc chacun est en même temps fille et garçon, hein, on est bien d'accord.
Ah, mais d'ailleurs, comment ça s'exprime? Comment ils sont fille et garçon? C'est-à-dire qu'ils ont deux sexes ou...
Ah, ben oui, ils ont les deux.
Ils ont un
ovotestris, c'est-à-dire qu'ils ont en même temps ovaires et testicules. Donc ils font les deux. Mais ils cherchent chacun à ne jouer que le rôle de garçon parce que c'est beaucoup plus économique d'être un gars, de laisser sa semence et se barrer. Être une fille, ça dure plus longtemps via la gestation, il y a la ponte, ça coûte de l'énergie. Donc chacun essaye de manipuler l'autre à coups de phéromones chimiques en s'enfonçant un dard calcaire dans la peau. Et ils ne s'accouplent vraiment que quand ils sont enfoncés ce dard. C'est pour ça que je dis que c'est sadomaso. Et à partir de ce moment-là, l'accouplement commence et peut durer une douzaine d'heures quand même.
Toutes ces histoires passionnantes, vous les... Ah quand même, 12 heures. Vous les racontez
dans c'est lent. Hein.
On la ramène un peu, mais quand même.
Vous les racontez ces histoires, Marc Giraud, dans le Kamasutra des Demoiselles, la vie extraordinaire des animaux qui nous entourent. C'est aux éditions Robert Laffont. Robert Laffont, bien sûr. Ces insectes et petits animaux qui peuplent nos campagnes. Oui, bah je vais arrêter de parler.
C'est, c'est troublant. Hein,
on va trouver un animal qui mange du savon, ça va tout faire.
À tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL. RTL. Jusqu'à 22h. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et notre invité s'appelle Marc Giraud.
Plus moi qui ai fait ça. Hein.
Non. C'est André Facetta. Enfin, son talent pour trouver de l'illustration.
Notre réalisateur.
Voilà. Donc, Marc Giraud, vu publié Le Kamasutra des Demoiselles, c'est aux éditions.
Robert Laffont. Oh pardon.
On va réussir à le dire.
Je n'ai toujours pas mangé de savon, je n'ose plus le dire.
Allez, c'est chez Robert Laffont. Ça fait du bien de se marrer un peu, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Bon, enfin, Marc Giraud, alors j'ai dit qu'on allait parler du lézard à deux pénis.
Vous avez raison.
C'est qui ce monsieur?
Ça fait rêver,
c'est qui cette bestiole? Bon.
C'est tous les lézards, c'est tous les serpents, c'était peut-être même les dinosaures. Hein, le tyrannosaure, il avait peut-être bien outillé. Hein. Mm-hmm. Donc en fait, ça ne marche pas comme les prises électriques, de prise mâle, de prise femelle. Hein. La femelle n'a qu'un orifice, donc il n'y en a qu'un qui rentre. C'est surtout intéressant pour les serpents.
Pourquoi il y en a un de secours?
Voilà, il y en a un de secours parce que c'est des animaux, c'est un peu des tuyaux. Les serpents, mettez-vous à leur place, il n'y a pas de main, il n'y a pas de patte pour s'accrocher, donc ils n'ont que ça. Donc quand il y en a un qui trouve le bon endroit, c'est bien.
Et donc en là plus... encore, c'est de la sélection naturelle, l'espèce puisse continuer
bien sûr.
D'exister.
Si ça ne pouvait pas marcher, ça disparaîtrait. Donc tout ce qui existe, forcément marche. Voilà, on se dit c'est merveilleux la nature, mais on ne sait pas tout ce qui s'est planté. Mais ça, comme ça marche, bah, c'est resté.
Tous ces lézards qui avaient un seul pénis et qui, dont l'espèce a disparu, c'est ça.
Voilà, ils n'ont pas pu. Voilà. Et en plus, il y a un goupillon au bout du pénis. Donc vraiment, c'est bien accroché sur les vipères.
C'est-à-dire comme c'est... pour nettoyer les biberons.
Voilà, c'est-à-dire comme un oursin. Enfin, c'est pas voilà, c'est pas délicat. C'est... Mais ça s'accroche bien à l'intérieur. Et sur les vipères, par exemple, le mâle quelquefois reste accroché malgré lui. Et la femelle est beaucoup plus grosse, donc quelquefois elle s'en va et ça se détache. Et là, c'est aïe.
Là, c'est un peu gore. Les animaux, vous disiez, Marc Giraud, ils sont merveilleux, incroyables. Par exemple, les lombrics. Alors, eux, ils sont équipés au minimum. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cerveau, pas de cœur, pas de poumon. Mais comment ils font pour vivre?
C'est des bêtes sans cervelle, mais ils n'en ont pas besoin. Non. Comme ils n'en ont pas besoin. Eux, ils passent leur vie à manger la terre et à avancer en mangeant leur chemin. Voilà, c'est tout ce qu'ils font.
C'est joli, mais... ça, ils avancent en mangeant leur chemin. Voilà. Donc ils engloutissent de la terre.
Et ils la rejettent d'une manière chimiquement transformée qui fait de l'engrais. Ils sont très importants dans le maillon de la chaîne alimentaire.
Ils jouent un rôle essentiel. Oui.
Et le dernier livre de Darwin, ça a été sur les lombrics. Ça a été le premier à se pencher là-dessus. Il s'est aperçu que comme ils sont des millions et des millions, par exemple, c'est eux qui font s'enfoncer les cathédrales et les monuments historiques parce qu'ils labourent dessous. Donc ils font des trous, etc. Et ça s'enfonce. Vous voyez bien, même dans votre jardin, si vous avez une dalle, au bout de quelques années, la dalle, elle s'enfonce. Ce sont les vers qui font ça.
C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas trop labourer. Labourer les champs parce que les lombrics aèrent.
C'est très très mauvais le labour. On a toujours dit labourage et pâturage, c'est une grosse erreur. On y revient, le labourage intensif, ça flingue tout ce qu'on appelle la microfaune du sol, les petits animaux qui meurent à la lumière. Donc on fait aujourd'hui des terres très très poreuses, très imperméables. Et on a même des inondations en sécheresse à la moindre pluie tellement la terre se stérilise à cause du labourage. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que la terre, c'est la toute petite pellicule à la surface de la planète qui nous sépare de la famine. Donc arrêtons tous ces pesticides, ces labourages et ces choses intensives. Et revenons aux vers de terre, qui sont très riches, qui sont très intéressants. Vous savez, par exemple, les vers de terre, ça muscle les sangliers. Il y a une substance qui s'appelle la lysine. Les sangliers adorent les vers de terre, ils en mangent, et c'est grâce à ça qu'ils sont costauds. Les poules et les cochons, quand ils sont un peu libres et pas en batterie, ils mangent des vers de terre, ils sont bien plus sains, ils ont des meilleures défenses immunitaires, c'est très important le vers de terre.
Donc le vers de terre est essentiel. Alors bon,
c'est l'animal le plus important de la planète.
Vous nous avez parlé des lézards, des vers de terre. On va aller voir un animal beaucoup plus sympathique, les adorables lapins. Bah tiens, figurez-vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent leurs crottes.
Oui, bah oui. Si vous voyez un lapin qui mange ses crottes, laissez-le faire. Parce qu'il pourrait avoir des crises de convulsion si vous l'empêchez.
Pourquoi?
Absolument.
Parce que mon lapin est épileptique, docteur. Absolument. Pourquoi il mange pas ses crottes?
Voilà. Laissez-le faire. Ça vous paraît dégoûtant, mais c'est en fait pour lui des bonbons à la vitamine. Faut savoir que quand il mange, il y a un premier passage dans le système digestif qui va trop vite. Donc il y a encore plein de bonnes choses à manger, dont des vitamines. Donc la nuit, comme ça, il se prend à la sortie de l'anus. Il se prend ses crottes spéciales qui s'appellent des sécotrophes.
Ah, ce ne sont pas toutes les crottes qu'il mange.
C'est le premier trajet. Et après, il les digère pour de bon. Et là, c'est les crottes qu'on voit dans la nature, les petites billes qu'on voit partout.
Et il sait faire la différence.
Ah bah oui, heureusement. Parce que sinon, ça serait à l'infini.
Bah oui.
Non, c'est pas les mêmes. Elles n'ont pas la même odeur. C'est un peu de la nourriture prédigérée, plutôt que des crottes, si on veut.
Bon, les garçons, parlons un peu de séduction, ça ne vous ennuie pas. Oui. Certains animaux, Marc Giraud, se font beaux. Ils changent de couleur. C'est le cas de la mouette. Que fait-elle ?
Ah bah la mouette de Franquin, tiens, la mouette, vous savez, elle a un capuchon noir, ça c'est son masque nuptial. C'est une mouettrieuse, on en voit partout, on en voit à Paris. En ce moment, c'est leur plumage d'hiver, donc elles sont blanches, il y a encore une vague trace noire autour de l'œil, mais elles sont blanches. Et dès qu'elles voudront séduire, elles sont toutes avec leur capuchon noir, comme ça, et c'est leur masque qui les identifie comme adultes et comme partenaires sexuels potentiels. Et en plus, nous, on les voit toutes pareilles, mâles et femelles, mais les oiseaux voient les ultraviolets. Donc, ceux qui nous paraissent pareils, eux, ils voient très bien que c'est un gars ou une fille, justement.
Vous parliez de la mouettrieuse de Franquin dans Gaston Lagaffe. Dans l'un des albums, le cas Lagaffe, on la voit qui essaye d'ouvrir des boîtes de conserve en les jetant depuis le quatrième étage. Et évidemment, ça tombe sur la tête de qui? De monsieur de Messmaker. Est-ce qu'effectivement, les mouettes font ça?
Oui, les mouettes et les goélands, elles font ça, mais en principe pour les coquillages. Parce que ça s'ouvre sur les rochers. Alors, ça nous paraît intelligent, mais quelquefois, ils le font au-dessus de l'eau. Donc, il y a une partie réflexe quand même là-dessus.
Le héron, lui aussi, se fait plutôt beau quand il veut séduire. Il est très dandy, très soigneux.
Oui.
Comment ça?
Oui, bah, il a
un peigne, c'est ça?
Il a deux peignes, il a des produits de beauté, enfin, tout sur lui-même, hein, évidemment. Donc, les peignes, c'est certains de ses ongles qui sont crantés. ouais. Donc qui servent pour lisser les plumes. Les plumes, c'est quand même leur instrument de vol, ça a intérêt à être impeccable. Donc ils ont, comme tous les oiseaux, ce qu'on appelle une glande uropygienne à la base du croupion, hein, et pige, ça veut dire fesse. Donc c'est juste derrière, c'est plein de graisse, ça leur permet de restructurer leurs plumes, de les imperméabiliser, et ils ont aussi une espèce de poudre sur le ventre, une poudre de beauté, de talc, aussi pour avoir un plumage en bon état. C'est plutôt de... pour leurs instruments de vol que pour la beauté, mais ils se soignent.
Ça sert aussi à la beauté. Le moineau, qu'est-ce qu'il fait pour plaire ?
Bah, ils roucoulent, vous les voyez, et puis ils se prennent souvent des râteaux, les mâles. Hein. Ils insistent, ça c'est des relous. Hein. Ils n'arrêtent pas. Alors ils se dentinent, ils font la roue, mais vers le bas. Et eux, c'est pareil, ils voient quand c'est une femelle, nous on ne voit pas, mais eux, ils le savent bien. Et la pauvre femelle, elle va se mettre sur un balcon, il suit, elle va ailleurs, il suit.
Pourquoi il se prend autant de râteaux, le moineau ?
Je pense qu'il faut que ça monte au cerveau de la dame. C'est pas du tout misogyne ce que je dis ça. Parce qu'elle, elle s'y attend pas et il faut qu'ils synchronisent leur cycle. La paranuptiale, c'est fait pour qu'ils arrivent en même temps au moment de l'accouplement. Donc elle, qui est pas au courant, et il faut qu'elle comprenne bien qu'Alicimie, probablement, de toute façon, c'est elle qui choisit. Hein. Donc qu'elle choisisse.
Bon, c'est comme chez les humains finalement.
Absolument. C'est toujours les femelles.
J'ai failli le dire, mais je voulais offrir cette réplique. Et le poisson qui rougit quand il est amoureux.
Ça, c'est adorable. C'est
une colle, ça, vous ne le retrouvez
le
pas.
Le poisson
ça.
Qui rougit.
Quand il est amoureux.
C'est alors... dans votre livre, publié aux éditions Robert Laffont.
Ah oui, absolument. Non, je le voyais rougir de la tête. Vous voyez comme on est. Non, oui, c'est l'épinoche, bien sûr. C'est le mâle, pareil, encore, qui rougit pour séduire. Hein. Y a plein d'animaux qui rougissent avant de faire l'amour. Donc, ça, c'est l'épinoche. Qui est tout rouge, et on s'est aperçu que c'est un stimulus visuel pour les femelles, c'est-à-dire qu'un bout de rouge, même sans le poisson, ça marche mieux qu'un mâle sans le rouge. Voilà, c'est le rouge qui les intéresse. Ouais.
Bon, la séduction c'est bien, mais le sexe c'est mieux, non ?
Ah bah oui !
Bon, allez, tout de suite, le Kama Sutra des animaux, c'est sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Les insectes et les animaux sont... tous amoureux, bien sûr. En tout cas, ils s'envoient en l'air. On en parle avec le naturaliste Marc Giraud. On va découvrir maintenant des secrets d'alcôve.
Chouette.
Ça se passe comment, par exemple, Marc Giraud, du côté des lièvres ?
Oula, c'est chaud, hein.
Les
lièvres et les lapins, on dit chaud lapin, voilà. Alors c'est pas que l'accouplement dure longtemps. Hein. C'est très 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 rapide, très rapide.
C'est
vraiment
quoi, très
comme
rapide
on dit, comme un, quelques secondes.
D'accord,
mais il faut dire que l'accouplement, c'est dangereux dans la nature. Faut pas rester.
Faut pas traîner. Trop,
voilà, ça, c'est une posture vulnérable. Donc, voilà, à part les canidés, on pourrait y revenir, qui des fois restent attachés 3 heures. Là, les lapins, ça va très vite. Mais c'est la parade nuptiale qui est assez intéressant parce que l'urine, faut savoir que c'est un parfum aphrodisiaque. Et souvent, le mâle fait pipi sur la femelle. De très loin, mais avec beaucoup
le
de précision.
Le mâle lièvre et lapin.
Oui, voilà, les mâles lièvres et lapin. Et la femelle, ça la rend amoureuse, ça marche, quoi. C'est un message amoureux, un petit billet doux d'amour.
C'est incroyable.
À leur manière d'animaux, parce que, voilà.
Mais quand vous dites de très loin, ça veut dire quoi?
Un mètre ou deux pour un lapin,
Mais oui, mais c'est déjà beaucoup.
Oui, c'est déjà pas mal, oui, ils sont assez
précis.
Par
rapport à la taille du lapin.
Oui, oui.
Oui,
oui.
Oui,
oui.
Projetez-vous là.
D'animaux.
Imaginez que vous faites la même chose.
Et il paraît que le lièvre aussi harcèle la femelle.
Ah oui, c'est ce qu'on appelle bouquiner. Ça se voit beaucoup dans les campagnes. Même c'est déjà parti là en ce moment. Ils se battent. Ils se battent, on appelle ça bouquiner en fait, parce que ça manque de filles chez les lièvres. Donc dès qu'il y en a une, il y a une tripotée de mâles derrière, mais c'est presque drôle. On en voit une devant et puis 6 derrière ou 8 derrière. On dirait une loco avec le train. Elle va à droite, ils sont tous à droite. Elle va à gauche, ils sont tous à gauche et ils ne la laissent pas en paix. Donc elle se défend. Des fois, c'est assez sauvage. Hein. Ils la mordent et ils la battent. Et il y a des biologistes qui pensent qu'ils l'hypnotisent un peu pour la rendre un peu plus docile, mais ça c'est peut-être une interprétation. Mais c'est assez violent. Petit lapin.
Vous avez déjà assisté à
un accouplement de lièvres, mais les bagarres, oui. Oui.
Chez les sangliers, l'amour est un petit peu vache aussi. Ça commence par un concours de crachats. C'est quoi cette histoire?
C'est toujours les petits billets doux d'amour. Hein. Donc, au lieu que ça passe par l'urine, forcément, eux, c'est par la salive. Donc, les mâles font des concours de molars, hein, on peut dire comme ça, qu'ils accumulent au pied des arbres. Et les femelles viennent faire leur choix. C'est un peu la boîte de nuit, mais on fait son choix au flair.
Et pendant le rut, qu'est-ce qui se passe entre les mâles? Ils se battent aussi?
Ils se battent énormément. C'est violent. C'est costaud, un sanglier. Hein. Si ceux qui en ont rencontré avec leur voiture, ils savent que c'est
la voiture qui trinque. Et les sangliers, ça a du pif aussi, ça a du nez, notamment pour... pour trouver les truffes.
Oui, alors ça c'est encore sexuel.
Ah bon?
Oui, parce
pourquoi
que en fait,
quoi,
c'est
la,
la truffe, c'est l'odeur amoureuse, mais du mâle. C'est un des rares animaux chez qui le mâle attire au parfum. D'habitude, c'est les femelles, et c'est une phéromone, hein, une odeur sexuelle qui est très proche de, du mâle amoureux.
Donc l'odeur de la truffe est proche de l'odeur du mâle amoureux,
absolument,
du mâle sanglier amoureux.
Il y a des
d'accord.
drôles de hasards.
Donc
dans...
le sanglier sent la truffe, en fait, c'est ça?
Et réciproquement.
Et réciproquement.
Oui, voilà, c'est oui, ça sent le cochon amoureux, ce qu'on met dans nos omelettes, c'est un peu de la l'odeur sexuelle
dire,
de cochon. Et on adore ça.
Et on adore ça. Chez les hérissons, l'accouplement n'est pas de tout repos non plus.
À imaginer.
5000, 7000, 8000, 10000 piquants, c'est ça?
Oui, 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 entre, 7, entre 5, 8000, oui, c'est ça.
C'est dur à compter, voilà. C'est douloureux.
On n'est pas nombreux à avoir compté. Il n'enlève pas son manteau, donc piquant.
Eh oui, alors imaginez.
Comment, là
imaginez. Donc, bon, la femelle, en principe, quand elle est consentante, elle fait ce qu'elle peut, eh ben, c'est piquant, mais quand même, il y a un obstacle. Mais le mâle, lui, il a une caquette à rallonge. Donc, c'est mieux.
Télescopique.
C'est un, voilà, c'est un petit peu à distance, donc ils peuvent y arriver quand même.
Ah, c'est bien ça.
C'est bien.
Et combien de temps dure la gestation, tiens, chez les hérissons?
Ah, ça, je sais pas. Ah, ça, les chiffres, je sais
ah, bah,
pas.
Parce qu'ils une bonne petite colle.
On se, oui, on oui, se pose chiffres, la question. Oui.
Et les bébés? Les bébés, ils ressemblent à quoi? Ils ont déjà des piquants ou non?
Alors, ils ont des petits pustules, mais qui sont encore mous. Et c'est après la naissance, heureusement, pour la maman,
femelle, ouais.
Que ça durcit et que ça devient piquant. Oui, oui. Mais c'est des questions qu'on se pose. Hein. Ce sont des questions d'enfants que je reconnais bien, mais qu'on me pose souvent.
J'ai gardé une âme
petit Thomas. Marc Giraud, est-ce que l'infidélité existe dans la nature?
C'est presque
chez
une
les
loi.
Animaux.
C'est presque une loi. Je vais décevoir beaucoup de gens, mais à part quelques grands oiseaux, genre
ou rassurer
abatros,
des gens, je sais pas.
Oui, ou rassurer. on l'a su avec les études génétiques, l'ADN. Dans un nid de mésange, par exemple, il est rare que tous les œufs soient du même père. Parce que c'est bon génétiquement de pas mettre tous ces gènes dans le même panier.
Ouais,
absolument.
Ah.
Donc les mésanges, elles écoutent. Alors ils sont monogames d'apparence. C'est un papa, une maman d'apparence, mais pas du tout dans
c'est-à-dire
les mœurs.
C'est-à-dire d'apparence pour
c'est
élever.
C'est-à-dire qu'il y a un mâle et une femelle qui
oui,
mais la femelle, elle écoute les chants des beaux mésanges monsieur de temps en temps. Et si jamais il y en a un qui chante bien, il y a un petit bon, il y a une petite séquence derrière un buisson et elle revient fécondée par un autre. Et l'autre, fait comme si c'était ses petits. Mais voilà, c'est une sécurité génétique.
Marc Giraud, parmi les records en matière de sexe, il y a les libellules. Et d'ailleurs, je crois que leur manière de faire l'amour a donné le nom de votre livre.
Oui, les demoiselles,
le Kama Sutra des demoiselles.
Le Kama Sutra des demoiselles, les demoiselles sont des libellules. Hein. Bon, voilà, j'ai fait un jeu de mots, mais c'est pour ça que je me retrouve des fois sur des sites internet qui sont pas du tout animaliers, pas plus. Mais voilà. Puis des fois, on confond naturaliste et naturiste. Donc enfin, tout ça, c'est voilà.
D'accord.
Alors, et alors,
les libellules, c'est très 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 compliqué. Et parce que le mâle a son pénis au milieu du corps, il a une pince au bout, il a sa réserve de sperme à l'autre côté. Donc déjà avant l'accouplement, faut qu'il fasse une petite gymnastique pour remplir son pénis de liquide séminal. Déjà faut qu'il se remplisse, voilà, comme un stylo. Ensuite il va chercher une femelle, il la prend avec une pince au bout de la queue, enfin au bout de l'abdomen, il la prend par la nuque. Il se courbe, et elle-même, qui est assez compliquée, il faut qu'elle se courbe aussi. Et vous avez remarqué que deux libellules qui s'accouplent, ça fait un cœur. Et elles jouent les jolis cœurs.
Oh, c'est joli.
Et les femelles sont très volages. Donc, pour que le mâle soit sûr d'avoir des descendants, il a une zigounette à balayette, c'est-à-dire qu'il fait le ménage dans l'intimité de sa partenaire pour être sûr que, voilà, parce qu'elle a eu déjà de nombreuses aventures, et pour être sûr, il fait le ménage. Il y a même des espèces, il reste accroché à la femelle jusqu'à temps qu'elle ponde. Il veut être sûr que ça soit lui qui va transmettre.
Ah, il vaut mieux bien s'entendre. Oui.
Voilà.
C'est fascinant ce que vous nous racontez, Marc Giraud, le Kama Sutra des demoiselles et des autres bestioles qui nous entourent. C'est dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Et on continue de partager la passion de notre invité Marc Giraud. C'est la musique de quelle émission de télé, ça, déjà? Nos amis les bêtes, évidemment.
Sûr.
Merci André. Enfin, c'est à Marc Giraud qui publie le Kama Sutra des demoiselles. Alors on va parler, tiens, des taupes. Les taupes, elles ont des chambres froides secrètes sous terre.
Oui.
Qu'est-ce qu'on y trouve?
On va revenir au lombric, qui est vraiment au ver de terre, qui est vraiment un animal tellement apprécié qu'il y a des animaux qu'on appelle lombrico-dépendants, tellement ils sont camés au lombric, comme les blaireaux et d'autres. Et donc la taupe, elle mange quasiment que ça. Elle en mange 15 kilos de vers par an quand même. Et l'hiver, comme ils sont très profonds et que la terre gèle, elle fait des réserves. elle leur donne un petit coup de dent sur la nuque, elle les lobotomise, ça les paralyse et ça les laisse vivants quand même. Donc il y en a qui font des réserves comme ça, comme un plat de spaghettis, on tombe sur des réserves de 100-200 lombriques, c'est leur réserve, leur chambre froide. Quoi.
Ce sont des céréales killeuses, ces taupes.
Voilà, absolument.
Terribles.
Mais si elle laisse trop longtemps ses vers, ils se réveillent, ils se régénèrent et ils partent. Voilà, c'est pas...
Marc Giraud, pourquoi est-ce qu'on dit que la pie est voleuse? C'est quelque chose qu'on dit souvent, qu'on raconte dans les histoires. Oui. C'est une légende?
Alors oui, c'est la pie, c'est un animal très très intelligent. Qui fait beaucoup de choses incroyables. C'est le seul oiseau à notre connaissance qui se reconnaît dans un miroir. Elle a la conscience d'elle-même. On n'a pas d'autres exemples chez des oiseaux. Il y en a peut-être d'autres, mais ça c'est prouvé. C'est un animal très intelligent qui fait des tas de trucs qu'on comprend pas, qui peut imiter la voix humaine, qui fait des tas de choses et qui collectionne quelquefois les objets brillants. On peut penser que c'est pour des parades, pour la séduction, comme font certains oiseaux exotiques. On peut penser que ça ressemble à des coléoptères, mais on n'est pas dans le cerveau des pies et on n'a pas une explication.
Continue avec un oiseau, le pigeon. Alors le pigeon, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, même quand on vit en ville, il y en a un peu partout. L'allaitement,
il y a du lait de pigeon. Oui, ouais. c'est un drôle de phénomène.
Une belle parité en tout cas.
Ouais. En plus, oui, c'est Monsieur et Madame qui allaitent.
Hein. Ah oui.
Oui, oui. Et c'est basé sur la même phéromone que les mammifères, la prolactine d'ailleurs, qui la déclenche. Et en fait, c'est la peau de leur estomac qui se desquame, quoi. Ça fait une sorte de liquide blanc. Et elles en ont plein l'estomac et les petits, les pigeonneaux, vont chercher dans la gorge de leurs parents cette nourriture qui est une sorte de lait. Enfin, c'est aucun rapport avec le lait de la vache, mais c'est du lait, quoi. Et le flamant rose fait pareil, et c'est du lait rose.
Marc Giraud, on parlait de l'intelligence des pies. Les corneilles aussi sont très intelligentes, et notamment au Japon. Qu'est-ce qu'elles font pour casser les noix dont elles veulent se régaler?
Alors ça c'est malin. Hein. Et c'est les mêmes corneilles que chez nous. Hein. Donc, elles se mettent au feu rouge et mettent des noix sur la route. Et elles attendent que les voitures roulent et leur cassent les noix. Et après, elles vont picorer une fois la noix décortiquée.
Mais c'est ultra intelligent.
Oui, c'est très intelligent. Ça a dans le cerveau l'équivalent d'hypothalamus qu'ont les grands primates.
Et c'est ce qu'on peut lire dans votre Kama Sutra des Demoiselles, la vie extraordinaire des animaux qui nous entourent, aux éditions Robert Laffont, document de Thomas. Marc Giraud, on vient de passer une demi-heure, un peu plus, qui fait du bien. À rire enfin. Et d'ailleurs, je sais pas, mais vos histoires d'animaux, ça aurait pu inspirer les dessinateurs, et ça peut inspirer les dessinateurs de Charlie Hebdo.
Mais absolument, et j'en connaissais, j'ai deux amis qui étaient dans l'attentat, dont Luce Lapin, évidemment, qui était la spécialiste des animaux, on se connaît tous. Fabrice Nicolino, qui est un grand journaliste, qui a quand même bien morflé. Donc ça m'est pas indifférent.
Qui a été blessé.
Oui, aux jambes, et ça fait deux fois qu'il subit un attentat. Et à Saint-Michel, il y était déjà allé. Donc ça m'est vraiment pas indifférent. Et je pense que l'indécence, ça aurait été justement de ne pas rire.
Vous écoutez RTL.